Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance.
Hey, you know what?
Les nouveaux chemins sont en quête quotidienne d'âmes tranquilles en compagnie de Mathilde Wagman, Jean-Danielou, Antoine Ravon, Marianne Chassor et Géraldine Mosna-Savoie, à la lecture sereine des textes cette semaine Georges Kless, à la réalisation de remèdes infaillibles musicaux Olivier Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son le grand sage Vincent Ronet. À 10h47, ce sera l'heure des 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie. Au programme aujourd'hui, le que sais-je sur l'esthétique de Carole Talon-Hugon.
Dans les bordels de Rome, j'ai repensé le monde. Et dans ses turpitudes, j'ai imaginé l'homme. La flamme des lampes fait trembler l'ombre des orgies. Pendant que régissent tous les plaisirs, je fais de la philosophie. Et mes pièces triomphent.
Sénèque, troisième temps. Après les lettres à Lucilius, lundi, avec Jérôme Laguenard, de la vie heureuse hier en compagnie de Valérie Laurent, et avant de la brièveté de la vie demain grâce à Emmanuel Naya, c'est aujourd'hui Juliette Dross, maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne, qui vient se demander si la tranquillité de l'âme est le propre du loisir ou de l'activité. En faisant mon introspection, mon cher Sénèque, j'ai découvert en moi différentes sortes de vices. Sans être franchement libérée de ces vices que je redoutais et haïssais, je ne suis pas non plus leur esclave. La situation dans laquelle je me trouve n'est certes pas la pire qui soit, mais elle n'en est pas moins fort pénible et difficile. Je ne suis ni malade, ni en bonne santé. Dans tous les domaines, je suis rattrapée par la faiblesse de mes bonnes intentions. Je crains de m'en écarter par un mouvement insensible de dérive, ou plus inquiétant, de me retrouver suspendue au-dessus du vide, comme perpétuellement sur le point de tomber. Aussi, je t'en conjure, si tu disposes d'un remède propre à mettre un terme au ballottement qui m'agite, juge-moi digne de te devoir la tranquillité. Pour te faire comprendre à l'aide d'une comparaison exacte ce dont je souffre, je ne suis plus ballottée par la tempête, mais j'ai le mal de mer. Arrache donc ce mal, si bénin soit-il, et porte secours à un homme qui, bien qu'en vue de la terre ferme, est en difficulté. Bonjour Juliette Dross.
Bonjour.
Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance. C'est à vous que l'on doit une toute nouvelle édition de La Tranquillité de l'âme parue au Seuil, aujourd'hui même, je crois d'ailleurs, si nous sommes le 9 janvier, si je ne me trompe pas. C'est donc...
Demain, je crois.
Ou demain, en tout cas, cette semaine.
Exactement.
Et qui est avec une nouvelle traduction, puis une excellente introduction de votre part. Je viens de lire le début de ce texte. On l'entend, ici c'est Sélénius qui parlait, qui s'adressait à Sénèque. De tous les textes et de tous les dialogues de Sénèque, celui-ci, La tranquillité de l'âme, est sans doute le seul vrai dialogue de Sénèque.
Exactement, c'est ce qui fait son originalité. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'ouvrages de Sénèque qui ont été regroupés sous l'appellation « dialogue ». Et là, le plus souvent, Sénèque s'adresse à son destinataire, mais ça se réduit en général à « mon cher Galion, mon cher Intel ». Et puis Sénèque embraye directement sur son exposé, entre guillemets. Là, dans La tranquillité de l'âme, on a cette originalité qui tient au fait que Sérénus parle longuement au début de La tranquillité de l'âme pour expliquer à Sénèque son état d'esprit, ce qu'il ressent et son c'est pas son mal de vivre. Il dit « je suis dans une situation d'entre-deux, je suis plus en prise aux passions mais je suis pas non plus sage, je suis dans cet état d'entre-deux qui est finalement assez insatisfaisant et je te demande de m'aider pour trouver cette fameuse tranquillité qui est en fait un synonyme du bonheur, hein, toujours pour trouver cette sagesse qui me mènera à la vie heureuse et à cette constance de l'âme, à cette tranquillité de l'âme. Donc effectivement, Sénèque laisse véritablement parler dans ce traité Sérénus et c'est de fait, voilà, vraiment le début de ce texte est très riche et très a vraiment une résonance universelle et c'est ce qui fait à mon avis son intérêt, c'est-à-dire que ça a un côté très moderne. Quand on lit Sérénus, ce que dit Sérénus, on peut tout à fait se retrouver en lui, dans cette description de ce ballottement.
On peut dire que le mal dont il est atteint, qui n'est ni donc passionné ni indifférent, est une forme d'intranquillité, justement.
Exactement. C'est une forme d'intranquillité. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il n'est pas au plus mal, il n'est pas faible, il n'est pas victime des passions que les stoïciens considèrent comme des maladies de l'âme. Mais il est dans cet état d'instabilité, exactement, d'intranquillité. Et c'est pour ça qu'il demande à Sénèque de l'aider à trouver le remède à cette intranquillité, et à trouver donc cette tranquillité de l'âme.
Sénèque va donc se positionner à la fois en philosophe et en médecin, puisqu'il va procéder d'abord par un diagnostic de ce mal et ensuite proposer plusieurs remèdes, ce qui est l'occasion pour lui à la fois de renouer, de présenter certaines thèses stoïciennes, ça on l'a vu hier et avant-hier, mais aussi d'aller butiner, disons, dans d'autres domaines de la philosophie. Il va faire appel à Épicure d'un côté, puis aussi au cynique, ce qu'on a moins vu les autres jours. Ce qui fait qu'ici, Sénèque est peut-être moins dans la position du philosophe que du médecin de l'âme, véritablement, pour qui tous les moyens sont bons pour essayer de guérir une âme malade.
Tout à fait. L'image de la médecine, c'est de toute façon une image extrêmement classique dans la philosophie ancienne, et notamment dans le stoïcisme. La philosophie, c'est la médecine de l'âme. Et donc le philosophe, c'est celui qui va guérir l'âme du malade, sachant que pour les stoïciens, tous ceux qui ne sont pas sages sont fous, et étant donné que le sage n'existe pas ou revient une fois tous les 500 ans, globalement tous les hommes sont fous, sont malades. Et donc la philosophie, c'est ce qui va soigner l'âme, qui va amener l'âme à la santé, la santé étant la raison parfaite. Donc Sénèque prend effectivement dans la tranquillité de l'âme le rôle du médecin qui va prescrire à Sérénus des remèdes propres à le sortir de cet état d'intranquillité. Et vous avez tout à fait raison, il puise dans le stoïcisme, évidemment, puisque c'est quand même un traité stoïcien. Mais Sénèque n'hésite pas, comme dans d'autres de ses œuvres d'ailleurs, à aller chercher du côté des épicuriens et du côté, effectivement, des cyniques. Alors, il y avait un certain nombre de proximités, de toute façon, entre le cynisme et le stoïcisme à Rome. Et Sénèque, donc, effectivement, prend assez souvent des exemples cyniques, notamment l'exemple de Diogène, pour montrer, notamment pour insister sur l'importance du détachement par rapport aux biens extérieurs, par rapport à la réputation, etc. Donc, en effet, Sénèque butine à différentes sources pour essayer de guérir Sérénus et de remplir ce rôle qui lui incombe de médecin de l'âme.
Il se pose non seulement comme un médecin, mais aussi comme un homme de son temps. C'est une autre caractéristique de ce texte, c'est qu'on y entend des échos très forts de la vie même de Sénèque, qui prenait part à la vie politique de son temps, et qui donc donne des conseils avisés, qui ne sont pas du tout abstraits, ni simplement médicaux, mais qui tiennent compte de la situation politique à un moment donné, qui est la Rome dans laquelle il vit. Et puisque ce texte a été sans doute rédigé entre 49 et 62, donc il est légèrement antérieur au texte dont on parlait les jours précédents, et notamment un des remèdes qu'il va proposer va être celui de rester actif au sein de la vie politique, et il sait exactement de quoi il parle. Ici c'est un expert qui prend position.
Tout à fait. Alors ça, c'est un élément important dans la tranquillité de l'âme, c'est cette insistance sur l'importance de l'action pour atteindre justement la sagesse. Alors c'est quelque chose d'assez paradoxal dans le stoïcisme que cette doctrine de l'action politique. La question qui se posait aux stoïciens, mais aux philosophes en général et aux hommes de l'Antiquité plus largement, c'était celle de savoir s'il fallait ou non participer à la vie politique de sa cité. Et notamment les stoïciens donc se posaient la question parce qu'a priori, le constat qui est fait, c'est que la cité, c'est un lieu où on peut côtoyer des hommes passionnés, des hommes remplis de vices, et donc que le sage, a priori, aurait plutôt intérêt à se détacher de cette cité, à s'en extraire pour ne pas être contaminé. Cette métaphore de la contamination, elle est récurrente, hein, vraiment. Et Sénèque l'emploie d'ailleurs. Hein, évitons d'être contaminé par les passions d'autrui. Néanmoins, les stoïciens estimaient par ailleurs, leur doctrine officielle sur la participation à la vie de la cité tient dans une phrase du fondateur du stoïcisme qui est Zénon, qui disait, une phrase laconique et qui peut être interprétée de différentes manières, qui est « Le sage participera à la vie de la cité si rien ne l'en empêche ». Autrement dit, par principe, le sage doit participer à la vie de la cité, sauf circonstances qui l'en empêcheraient, ce qui est donc paradoxal par rapport à ce constat de la cité comme lieu de perdition. Alors pourquoi le sage doit-il participer à la vie de la cité? Parce que, et là je rebondis un peu sur ce que disait Valérie Laurent hier, qui explicitait l'image des cercles concentriques, le sage, en cherchant à être à advenir à sa propre nature, si vous voulez, à se construire, va se construire non pas dans un égoïsme, mais dans une relation à autrui. Voilà. C'est-à-dire que la construction du sage est une construction qui se comprend par rapport à autrui, dans un amour des autres, non seulement un amour de lui-même, mais un amour des autres. Et donc, de ce point de vue-là, le sage doit participer, doit essayer d'améliorer ces lieux de sociabilité que sont les cités. C'est ce qui explique que le stoïcisme dise que le sage participera à la vie de la cité si rien n'en empêche. Par principe, il doit essayer d'améliorer ces lieux de sociabilité que sont les cités et donc il doit participer à la vie politique. Néanmoins, voilà, il y a cette clause restrictive, c'est-à-dire que le sage ne devra pas participer à la vie politique à tout prix. Prenons un exemple très simple. Si la promotion d'une loi de la justice dans une cité doit passer par un système de corruption, le sage ne va pas participer à cette promotion de la justice. Voilà, il ne le fera pas à tout prix. De manière plus simple encore, si le sage est empêché physiquement, intellectuellement de le faire, il ne le fera pas, évidemment. Donc il y a une clause restrictive, mais quand même, par principe, le sage doit participer à la vie de la cité. Et Sénèque en est un bel exemple. C'est-à-dire que lui-même a été... a connu les ors de l'Empire. Autant, et d'ailleurs, souvent, les adversaires des stoïciens se moquaient des stoïciens. Les stoïciens grecs ont dit « Le sage participera à la vie de la cité si rien ne l'en empêche, mais aucun d'entre eux n'a participé à la vie de la cité. » Et d'ailleurs, Sérénus le rappelle. Sénèque, lui, enfin, les stoïciens romains en général, et Sénèque en particulier, appliquent cette doctrine et donc participent, en effet, à la vie politique de leur temps. Et Sénèque, voilà, a été l'un des conseillers les plus proches de Néron.
Voici, à mon sens, ce que doit faire l'homme vertueux ou celui qui aspire à l'être. Si la fortune l'emporte et lui ôte les moyens d'agir, qu'il évite de tourner immédiatement les talons pour fuir à l'abri en jetant les armes. Qu'il modère plutôt sa participation aux activités politiques et s'applique à trouver un domaine dans lequel il puisse se rendre utile à la cité. Ne peut-il servir comme soldat ? Qu'il brigue les magistratures ? Doit-il vivre en simple citoyen ? Qu'il se mette à plaider ? Est-il condamné au silence ? Qu'il assiste ses concitoyens dans les procès par sa seule présence ? Ne peut-il plus remplir ses devoirs de citoyen ? Qu'il remplisse ses devoirs d'homme ? Si la fortune t'écarte des plus hautes fonctions politiques, reste debout et aide les autres par tes encouragements. Si l'on t'empêche de parler, reste debout et aide-les par ton silence. Jamais un bon citoyen n'agit en vain. On l'entend, on le voit. Son expression, un signe de tête, son obstination muette, sa démarche même suffisent à le rendre utile. Certaines substances sont salutaires par le parfum qu'elles dégagent indépendamment de leur goût ou de leur aspect. De même, la vertu répand ses bienfaits même de loin, même cachée. Qu'elle se déploie, libre de ses mouvements, ou qu'elle soit bridée, contrainte de carguer les voiles, qu'elle soit retirée dans un loisir silencieux, renfermée entre quatre murs, ou qu'elle se déploie en terrain découvert, quelle que soit sa situation, en somme, elle est utile.
J'entre chez Vinci, à la direction internationale. Tu penses que je me trompe ? Je me trompe de combat, je me trompe d'époque, Je trahis la cause, je trahis le public. Chimère du privé. On étouffe, Gilles. On nous a pris nos territoires. On avait les plus belles compétences et ils ont tout gâché. On est plus de 50 à essayer d'exister sur une tête d'épingle. Et puis, exister... Exister au nom de quoi ? Une misère. L'État, c'est devenu une misère. C'est une vieille godasse qui prend l'autre partout. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de puissance.
Il nous reste quelques prérogatives.
Oui, du pouvoir, il y en a, oui, je dis pas, oui. Regarde ici. Mais c'est quoi du pouvoir sans la puissance d'agir ? Qu'est-ce que ça crée comme légitimité ? On amuse la galerie avec nos réformes structurelles, nos lois. Et d'ailleurs, tu sais très bien, aussi bien que moi, que 2 décrets sur 3 sont étouffés dans l'œuf. Et quand il y en a un qui passe au travers, il lui reste quoi à vivre, hein ? Petit amendement... Petite censure au Conseil d'État.
Oui, mais même s'il y avait une seule loi...
Oui, non, je sais s'il existe une loi, une seule loi à écrire, à imposer à ce pays usé et usant, eh bien, cette loi légitimerait tout le reste. Enfin, on n'a pas besoin d'être 50 pour écrire une loi, hein, il suffit d'un seul homme. Et la place est prise, c'est toi qui l'occupes, magistralement d'ailleurs.
Comme remède à l'intranquillité de l'âme, Sénèque propose l'action, notamment l'action politique. On a entendu un extrait de La tranquillité de l'âme, le chapitre 4, interprété par Georges Clès. Mais comme l'extrait de L'exercice de l'État, le film de Pierre Scholler de 2011, nous le pointe très justement, se mettre au service de la vie publique, certes, mais pas à n'importe quel prix, puisque le personnage le dit bien dans ce film, que reste-t-il du pouvoir sans la puissance d'agir? En d'autres termes, si l'État ne met pas à notre disposition les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ce que nous devons mettre en œuvre, ce que l'homme vertueux doit mettre en œuvre, alors ne vaut-il pas mieux se retirer de cette vie publique? Juliette Ross.
C'est la grande question, et c'est la question à laquelle la formule stoïcienne « le sage participera à la vie de la cité si rien n'en empêche » répond, mais de manière très sibylline, qui laisse donc place à une large interprétation. Si rien n'en empêche, qu'est-ce qui peut l'en empêcher? Voilà, la corruption, ou tout simplement aussi, je vous disais, l'état physique, l'état intellectuel, etc., mais aussi l'impossibilité d'agir. C'est-à-dire que si on ne peut plus rien faire au sein d'un état qui est trop corrompu, trop malsain, mieux vaut se retirer. Alors, Sénèque aborde beaucoup cette question dans La tranquillité de l'âme, et il insiste néanmoins quand même beaucoup sur la primauté de l'action. Voilà. C'est-à-dire que Sérénus lui a expliqué son état d'intranquillité, et Sénèque lui dit, pour remédier à cela, agis. Participe à la vie de la cité, et il cite pour cela un philosophe stoïcien qui était le maître d'Auguste, qui s'appelait Athénodore, et il dit « Athénodore nous conseille de participer à la vie de la cité, c'est ainsi qu'on va échapper à l'intranquillité, à l'insatisfaction, aux tergiversations, etc. » Et Athénodore, justement, disait « Néanmoins, voilà, si on ne peut plus agir, si la vie de la cité ne laisse pas finalement de place à l'action, si le sage ne peut pas s'y déployer, qu'il se retire. » Et Sénèque reprend donc ensuite prend la parole après Athénodore, d'une certaine manière, qu'il a fait parler, en disant « Je suis d'accord avec Athénodore, mais je trouve quand même qu'il tourne un peu trop vite les talons. » C'est-à-dire qu'il ne faut pas se retirer de la vie publique au moindre revers.
Il ne faut pas que ce soit une fuite.
Il ne faut pas que ce soit une fuite. Ouais. Voilà, il faut vraiment que ce soit un choix raisonné. Il ne faut pas fuir à la moindre contrariété. Donc Sénèque insiste là-dessus, insiste sur l'action, en disant néanmoins, il peut arriver effectivement que l'action politique ne soit plus possible dans des conditions extrêmes, et à ce moment-là, le sage, en effet, choisira de se retourner, mais ce sera un choix rationnel, réfléchi, et même sans être utile à ce moment-là à ce que Sénèque appelle la petite république, c'est-à-dire être utile à l'État, le sage agira pour être utile à l'ensemble de ses concitoyens et à l'ensemble même de l'humanité, ce qu'il appelle dans un autre traité, qui s'appelle le traité sur le loisir, qu'il écrit un peu plus tard, qu'il appelle la Grande République. Donc il y a deux manières finalement pour le sage d'être utile. Être utile à la petite République, et c'est ce que Sénèque privilégie dans La tranquillité de l'âme, et si vraiment cela devient impossible, eh bien se retirer par un choix raisonné dans le loisir et être utile à ce moment-là à la Grande République, c'est-à-dire à la communauté humaine finalement. Mais ce qui est assez intéressant, c'est justement, et vous parliez de l'inscription de la tranquillité de l'âme dans le contexte romain, ce qui est intéressant, c'est que Sénèque a écrit la tranquillité de l'âme, alors on ne sait pas exactement quand, mais pour faire une fourchette très large, entre 49, c'est-à-dire le moment où il devient le précepteur de Néron, qui sera empereur 5 ans plus tard, et 62, c'est-à-dire le moment de sa disgrâce. C'est-à-dire qu'il a écrit la tranquillité de l'âme à un moment où il était vraiment sous les ordres de l'Empire, pardon, et où il était, il occupait une position de première importance au sein de l'État romain. Or, quelques années plus tard, donc après 62, entre 62 et sa mort, puisque Sénèque est mort en 65, Sénèque écrit un autre traité, dont je parlais très rapidement tout à l'heure, qui s'appelle le traité sur le loisir, et il revient justement sur cette question de l'otium, parce que c'est la grande question. Le sage doit-il participer à ce que les Romains appelaient le negotium, c'est-à-dire la vie de la cité, ou doit-il se retirer dans le loisir, ce que les Romains appelaient l'otium? Et donc Sénèque consacre un peu plus tard un petit traité à cette question précise, à la question de l'otium. Et quand on compare les deux, la tranquillité de l'âme et l'otium, on voit que la position de Sénèque a un peu changé. C'est-à-dire que le principe est toujours le même. Sénèque reprend le principe stoïcien, le sage participera à la vie de la cité si rien ne l'en empêche. Mais alors que dans la tranquillité de l'âme, il insiste beaucoup sur la première partie, le sage participera à la vie de la cité, Dans le loisir, il insiste plutôt sur la deuxième partie. C'est-à-dire, si rien ne l'en empêche, en faisant d'une certaine manière un peu gonfler cette deuxième partie, en disant finalement, il y a beaucoup de circonstances qui peuvent empêcher le sage de participer à la vie de la cité. Et dans ce cas-là, voilà, il faudra qu'il se retire, mais sa retraite ne sera pas une inaction. Le sage agira pour l'ensemble de l'humanité. Et évidemment, c'est vrai que la vie n'explique pas l'œuvre, mais on ne peut pas s'empêcher de penser quand même au cas personnel de Sénèque, qui depuis 62 est en disgrâce, s'est retiré de la cour et se consacre à l'écriture pour l'éducation de ses concitoyens et de l'humanité tout entière.
D'autant que le recours à la vie de Sénèque permet de complexifier légèrement les choses dans ce texte, puisque ce que vous êtes en train de présenter, c'est-à-dire à la fois le choix que nous devons faire entre l'activité politique et le retrait de l'activité au sein du loisir, on peut le voir de deux façons. Il y a d'abord une forme de remède, c'est comme ça que Sénèque le propose à Sérénus, hein, donc un remède à l'intranquillité de l'âme. L'homme n'est jamais vraiment bien là où il est, il veut sans cesse partir, c'est ce qu'il dit vraiment dans ce texte, hein, voyager, il se fuit lui-même, citant Lucrèce ici. Et d'un autre côté, l'exemple à la vie de Sénèque le montre bien, il s'agit aussi d'un choix proprement politique, voire moral. L'homme vertueux se doit d'agir dans la vie publique. On n'est plus ici dans le remède à l'intranquillité de l'âme, mais dans la mise en œuvre de principes vertueux proprement moraux.
Absolument. Le sage doit... c'est non seulement un remède à l'intranquillité, mais c'est également un devoir moral. Vous avez parfaitement raison. C'est un devoir moral de contribuer à améliorer la cité et du coup à améliorer... à pousser l'ensemble de ses concitoyens dans une ligne plus vertueuse, dans une direction plus vertueuse. Tout à fait. Donc c'est à la fois un remède à l'intranquillité et en effet un devoir moral.
C'est bien le propre d'un esprit malade que de ne rien supporter longtemps et de considérer le changement comme un remède. De là ces voyages que l'on entreprend sans destination, ces errances de rivage en rivage, cette inconstance qui, nous faisant toujours détester le moment présent, nous pousse à expérimenter tantôt la mer, tantôt la terre. Allons en compagnie, mais déjà ces raffinements nous lassent. Allons à Tarente, et puis non, retournons plutôt à Rome. Cela fait trop longtemps que mes oreilles n'ont pas entendu les applaudissements et le vacarme des jeux, et j'ai envie de voir couler le sang humain. Et on va ainsi, de voyage en voyage, de spectacle en spectacle, et comme le dit Lucrèce, ainsi chacun se fuit toujours.
Ô mort, vieux capitaine, il est temps. Levons l'ancre, ce pays nous ennuie. Ô mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe. Au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau.
Depuis l'enfance, je suis toujours en partance, je vis contre le cours de ma vie.
Qui s'envole pour ailleurs,
mais on n'est pas à l'heure.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h24, c'est le troisième temps de notre semaine consacrée à Sénèque, et c'est de la tranquillité de l'âme que nous parlons aujourd'hui en compagnie de Juliette Dross, à qui l'on doit une nouvelle édition de La Tranquillité de l'âme, disponible au Seuil.
Partir sans rien dire, vivre en s'en allant et en s'envolant, et les gens, l'argent serait du vent. Mais c'est vrai, le temps nous prend trop de temps.
Le temps nous prend trop de temps, c'est vrai, le chante, Julien Clerc le chante, et c'est ce que Sénèque dit aussi. Hein, on ne nous a pas donné la vie brève, c'est nous qui l'avons rendue brève parce que nous ne savons pas comment utiliser notre temps. Ce qui est frappant dans ce texte, alors je l'ai dit rapidement, mais revenons-y, Juliette Drosse, c'est cette double dimension quand même entre d'un côté la description très fine et très juste de ce sentiment d'intranquillité de l'âme, qui pour le coup a des échos étrangement contemporains. Le terme même d'intranquillité est un terme qui a été inventé assez récemment. On le trouve chez Michaud pour la première fois, c'est le livre de l'intranquillité de Pessoa. Autant d'auteurs qui décrivent cette espèce de c'est plus qu'un vague à l'âme, parce que c'est pas vraiment de la mélancolie, mais cette insatisfaction par rapport au moment présent qui toujours nous pousse à vouloir partir, à vouloir fuir, c'est-à-dire nous fuir nous-mêmes, alors qu'on sait bien que les voyages nous font fuir un endroit, mais jamais notre propre personne. Et de l'autre, voilà, la richesse de ce texte se trouve aussi dans cette deuxième dimension, qui elle est proprement politique. La question qui se pose quand même est celle de savoir, pouvons-nous réellement parvenir à cette tranquillité de l'âme? Ou est-ce un idéal que Sénèque affiche comme un idéal régulateur qui nous permet de bien agir, alors qu'en fait c'est inaccessible?
Alors c'est la grande question du stoïcisme. La tranquillité de l'âme, on l'atteint lorsqu'on devient sage. Voilà. La sagesse est-elle accessible? Théoriquement, oui. C'est-à-dire qu'on est dans une philosophie dans laquelle il n'y a pas de rupture entre l'état de non-sagesse et l'état de sagesse. Voilà. On progresse. On est d'abord ce que les stoïciens appellent un progressant, voilà, un proficiens, on avance, et on passe insensiblement à l'état de sagesse. Ça, c'est la théorie, ce qui faisait que le stoïcisme était une philosophie très humaine, théoriquement, voilà, qui permettait d'atteindre la sagesse, et donc le bonheur, puisque la sagesse, pour les stoïciens, c'est également le bonheur, la vie heureuse, la tranquillité. Reste qu'en pratique, voilà, les stoïciens admettaient eux-mêmes que le sage avait peut-être existé, peut-être Socrate, parfois on met Socrate au rang des sages, ou qu'il revenait tous les 500 ans, ou qu'il était aussi rare que le phénix, cet animal mythique. Autrement dit, voilà, l'existence réelle du sage est quand même sujette à caution. C'est-à-dire que dans la théorie, oui, la sagesse est accessible, la tranquillité est accessible, le bonheur est accessible. Dans la pratique, c'est plus compliqué. Néanmoins, ce qu'on va essayer de faire lorsqu'on fait de la philosophie, lorsqu'on progresse, c'est d'essayer d'atteindre ce but du chemin, ce que Sénèque utilise également souvent, c'est l'image du port. Voilà, c'est la vie, c'est une longue navigation, et le port. Alors le port peut être utilisé aussi, que l'image du port peut être utilisée pour désigner la mort, mais pour aussi désigner la sagesse. C'est-à-dire qu'on vise à atteindre ce but. L'atteindra-t-on jamais? Ce n'est pas sûr, mais en tout cas, on cherche à s'en rapprocher. Et c'est à cela que servent les traités de philosophie.
Justement. Voilà, et d'où l'écho direct, cette fois-ci, à Baudelaire, dont on a entendu un extrait avant, interprété par Fabrice Lucchini, à l'invitation au voyage, où en effet, c'est l'homme qui veut toujours se fuir lui-même, et donc l'image du porc qui revient à de nombreuses reprises. Mais je vous posais cette question de l'idéalisme ou non de la tranquillité de l'âme, parce que dans ce texte précisément, Sénèque oscille sans arrêt entre une forme de réalisme qui accepte la faiblesse et la fragilité de l'homme, et qui sait bien que finalement l'homme fait ce qu'il peut, que la sagesse n'est qu'un idéal, et en même temps une forme d'enthousiasme, d'entraînement vers quelque chose qui serait plutôt plus positif ou plus joyeux. Je pense notamment vers la fin du texte où il explique à Sérénus que qu'entre les rires et les larmes, il faut toujours choisir le rire. Alors, pas seulement parce que Diogène, le cynique, l'a lui-même mis en œuvre, mais parce qu'on rend un meilleur service au genre humain, dit-il, en riant de lui qu'en geignant sur son sort. C'est aussi à la fois, voilà, une forme de tendresse envers l'humanité, puis en même temps, un parti pris, dire, ben voilà, rions des choses, puisque de toute façon, nous ne pouvons rien y changer.
Oui, alors, c'est vrai que ce passage est intéressant sur le rire aux larmes. Faut-il rire de nos défauts, de notre malheur, ou en pleurer? Bon, Sénèque dit qu'il vaut mieux être entre les deux, mais finalement, quitte à choisir, autant en rire.
C'est vrai qu'il dit qu'il vaut mieux être entre les deux. Voilà, il faut choisir le rire contre les larmes, voilà, de toute façon, on ne peut jamais vraiment choisir.
C'est difficile de choisir, mais bon, s'il faut vraiment faire un choix, choisissons plutôt le rire, c'est moins déprimant que de choisir que de pleurer sur le genre humain. Donc ça, c'est effectivement un élément intéressant du texte, mais plus généralement par rapport à ce que vous disiez sur cette tension entre d'un côté la présentation d'un idéal un peu inaccessible qui serait réservé aux sages et de l'autre côté la prise en compte de la faiblesse de l'humanité. Sénèque oscille constamment entre les deux, c'est-à-dire que il le dit d'ailleurs dans La Tranquillité de l'âme, il dit tout ce que je viens de dire ça s'adresse aux sages, voilà. Mais nous ne sommes pas sages et donc tous les principes que les principes dont je parle et les principes qui sont des principes stoïciens s'adressent aux sages. Nous ne sommes pas sages, mais il faut que nous essayions de nous approcher, de nous rapprocher au maximum de cette sagesse. Et donc, tendons nos regards vers ce sage pour essayer d'avancer dans cette direction, même si, effectivement, nous ne serons a priori jamais sages. Et d'ailleurs, au-delà de la tranquillité de l'âme, Sénèque rappelle assez souvent que lui-même n'est pas sage, ce qui l'arrange bien d'ailleurs, parce que quand on lui reproche, par exemple, c'est dans la vie heureuse hein, dont il était question hier, lorsqu'on lui reproche, par exemple, son goût pour l'argent, bon, il développe plusieurs arguments, mais il dit également, de toute façon, me reprocher de ne pas me comporter comme un sage, c'est absurde, puisque je ne suis pas sage, et le sage n'existe pas, il est comme le phénix. Voilà. Donc il y a effectivement toujours cette oscillation entre, d'un côté, ce que doit faire le sage, et d'un autre côté, ce que doit faire la pauvre humanité qui se débat un peu dans sa sottise, mais qui, en même temps, tourne ses regards vers la sagesse pour orienter son action.
Alors, l'autre tension qui traverse ce texte, et qui est ici sans doute propre au stoïcisme, c'est celle entre, d'un côté, le remède que l'on veut s'inculquer pour essayer d'atteindre cette tranquillité de l'âme, donc la prise en compte, le souci de soi, et de l'autre, la prise en compte des autres. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit, il y a comme un amour des autres, il faut agir en fonction des autres, et sur le rire, il dit donc, on rend un meilleur service au genre humain en riant de lui. Est-ce qu'ici, il faut y voir une forme de morale, parce qu'on entend presque une forme de charité chrétienne ici, il faut s'occuper des autres, les aimer, agir au nom de la cité. Quelle est cette injonction? Est-ce qu'il y a ici une morale proprement stoïcienne qui ordonne de s'occuper des autres?
Alors là encore, on revient à la... au principe stoïcien que j'évoquais au début et que Valérie Laurent évoquait hier, qui est celui de l'oikeia aussi, c'est-à-dire de cette l'homme par nature va chercher à se conformer à sa propre nature, qui est une nature rationnelle, mais en recherchant cette nature, il va en même temps, enfin en recherchant l'homme est porté à l'amour de soi par nature, mais cet amour de soi est simultanément un amour qui est tourné vers les autres. Et c'est l'image des cercles concentriques. L'homme se recherche lui-même, s'aime lui-même, mais en même temps qu'il s'aime lui-même, il aime les autres, alors ses proches, sa famille, ses enfants, ses parents, puis dans un autre cercle, sa famille plus éloignée, puis ses concitoyens, puis l'humanité tout entière.
Ce que vous dites, c'est un constat, c'est la nature qui veut ça.
C'est la nature qui veut ça, mais c'est également, enfin, c'est à la fois un constat que l'homme par nature est poussé à cela, et ça s'inscrit finalement dans la physique stoïcienne qui veut que tous les hommes aient en partage une parcelle de la raison universelle, et que donc, en cherchant à parfaire sa propre raison, donc à advenir à sa propre nature, eh ben on va chercher aussi à parfaire la raison universelle et donc la raison d'autrui. Donc ça s'inscrit vraiment dans une... Le système stoïcien, c'est un système qui est parfaitement bien construit. Voilà, qui est parfaitement cohérent sur le plan théorique. Donc effectivement, l'homme, en cherchant à advenir à sa propre nature d'être rationnel, va en même temps essayer de contribuer à l'amélioration de la raison des autres pour améliorer, être en adéquation le plus possible avec la raison universelle qui est pour les stoïciens identique à la nature.
Ce qui explique sans doute peut-être la difficulté de l'homme à rester seul avec lui-même et qui est très bien décrite par Sénèque.
Alors, ce qui peut expliquer en effet la difficulté de l'homme à rester seul avec lui-même, je ne sais pas si dans ce cas-là Sénèque a vraiment cela en tête. La difficulté, enfin, ce que décrit Sénèque, c'est quelque chose, et ce que vous disiez à très juste titre, c'est une réflexion qui a une résonance très contemporaine, voilà, et qui fait penser également à Pascal, la difficulté que l'homme a de se retrouver face à ses murs dans sa chambre. Et finalement, Sénèque utilise, je ne sais plus quelle est l'image exacte, mais il dit on a du mal à se détacher de cette compagnie fort pénible que nous sommes à nous-mêmes.
Eh bien, écoutons le texte. C'est le chapitre 2 de La Tranquillité de l'âme.
Une fois privés des divertissements que les gens affairés trouvent au cœur même de leurs occupations, on ne supporte plus d'être chez soi, seul entre les murs de sa chambre. Et l'on a du mal à se voir abandonné à soi-même. De là cet ennui, ce dégoût de soi, ce tourbillon d'une âme qui ne se fixe jamais nulle part. De là la tristesse, l'abattement et les mille flottements d'une âme incertaine, tenue en haleine par les espoirs conçus, mais terrassée par les espoirs déçus. De là, cet état d'esprit qui conduit les hommes à détester le loisir et à se plaindre de n'avoir rien à faire. De là, cette jalousie haineuse si marquée envers le succès des autres. Car l'oisiveté mal vécue nourrit l'envie et l'on voudrait voir tout le monde échouer parce que l'on n'a pas su réussir. Puis, de cette jalousie envers la réussite d'autrui et du désespoir que font naître ses propres échecs, on en vient à s'irriter contre la fortune, à se plaindre de l'époque à laquelle on vit, à se replier dans un coin, tout seul, pour y couver sa peine dans l'accablement et le chagrin. L'âme humaine, en effet, est par nature active et portée au mouvement. Toute occasion de s'éveiller et de sortir d'elle-même lui est agréable, et ce, davantage encore pour les caractères les plus mauvais qui aiment s'user au contact des occupations. Certaines plaies vont provoquer la main qui les mettra à vif et trouve du plaisir à se faire gratter. Le galeux apprécie tout ce qui exacerbe sa gale. Je dirais la même chose de ces âmes dans lesquelles les passions ont éclaté comme de vilaines pustules. Elles prennent du plaisir à se faire du mal et à se faire souffrir.
Quand je me suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour, dans la guerre d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de bien pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. On achèterait une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouverait insupportable de ne bouger de la ville, et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne demeure chez soi avec plaisir. Les échos sont troublants entre le texte de Sénèque d'un côté sur la tranquillité de l'âme qui semble condamner le divertissement et celui de Pascal, bien connu, tout le malheur de l'homme vient qu'il ne peut rester seul en repos dans sa chambre. Et pourtant, sans doute, il est clair que la conception que Sénèque et Pascal se font respectivement de la nature humaine est bien différente. Chez Pascal, la nature humaine est corrompue. C'est un mal qui ne peut rester avec lui-même. Chez Sénèque, il est de la nature humaine d'aller vers les autres. C'est ce que vous disiez ici, il le dit bien. L'âme humaine est par nature active et portée au mouvement. On a ici deux ontologies complètement différentes, Juliette Drosse.
Tout à fait. L'âme est par nature active et portée au mouvement. Et ce que décrit très bien Sénèque, c'est l'oisiveté mal vécue, c'est ce qu'il dit. C'est pas une condamnation de l'oisiveté de ce fameux otium, qui est d'ailleurs difficile à traduire, parce que otium, ça peut désigner à la fois le loisir assumé, c'est-à-dire le retrait de la vie publique, et ça peut désigner également justement l'oisiveté un peu mal vécue, la paresse, notamment pour ces pourfendeurs. Et donc, ce que dit Sénèque, voilà, c'est que l'oisiveté mal vécue entraîne le malheur, l'intranquillité, etc. Et que l'âme humaine est par nature portée à l'action. Alors, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le choix entre l'action et l'inaction. Ce sur quoi insiste Sénèque, c'est que l'otium, l'oisiveté, pour ne pas donner lieu justement à cette tergiversation, à cette intranquillité de l'âme, à cet état qui fait qu'on ne supporte pas de rester entre les murs de sa chambre et on ne se supporte pas soi-même. Pour éviter cela, il faut que cette otium soit délibérée, soit choisie et soit donc le fruit d'un choix rationnel et ne soit pas un choix par défaut. Sinon, je trouve que ce sont des pages extrêmement effectivement qui ont un écho extrêmement moderne sur le fait que voilà que l'oisiveté mal vécu nourrit l'envie, nourrit la jalousie, qu'on ne supporte pas finalement de voir les autres réussir si on a soi-même échoué. C'est des choses qui sont extrêmement, enfin c'est des remarques qui sont, voilà, encore une fois extrêmement extrêmement pertinentes et qui ont une résonance, je trouve, assez universelle. Et de ce point de vue, vous avez fait allusion à Pascal. C'est certain que les deux textes sont très très proches. Mais le texte La tranquillité de l'âme fait également, je trouve, souvent penser à Montaigne et à ce jeu de Montaigne. Notamment le jeu de Sérénus au début fait souvent penser au jeu de Montaigne qui décrit finalement de manière extrêmement humble, de manière extrêmement, franche, l'état dans lequel il se trouve et cette difficulté qu'il a à atteindre cette tranquillité de l'âme et à finalement joindre un peu à allier la théorie qu'il connaît un petit peu quand même à la pratique.
Et là où Sénèque ressemble à Montaigne et aussi à Pascal, d'ailleurs peut-être qu'il permet de faire le lien entre les deux, parce que de même que Pascal ne condamne pas en réalité le divertissement, disons, bien sûr, il vaudrait mieux, enfin, l'homme, s'il était un saint, n'aurait pas besoin de se divertir, mais il sait bien que l'homme ne peut pas faire autrement. Donc il prend juste acte de cette impossibilité pour l'homme de ne pas se divertir. De même, Sénèque, effectivement, sait bien aussi que l'homme, quelque part, fait ce qu'il peut aussi, même si ça, la rigueur stoïcienne le conduit vers une exigence de vie qui le porte plus haut. Tous, et Montaigne également, s'accordent quand même à dire que voilà, c'est notre condition humaine de n'être pas parfait, de n'être ni sage, ni saint, de vouloir nous fuir nous-mêmes. Et il faut... Et Sénèque le dit en ces termes, il faut s'habituer à notre propre condition. Or, heureusement, puisque chez les stoïciens, c'est la nature le guide, c'est en se conformant à la nature que nous pouvons être pleinement heureux, la nature nous a fourni cette chose merveilleuse qui est l'habitude et qui fait que l'homme, plutôt que d'être en conflit avec lui-même, peut s'habituer à sa propre condition.
Alors ça, c'est vrai que c'est un passage très lucide de Sénèque, alors qui n'est pas forcément très optimiste, mais qui a le mérite du pragmatisme.
Ah, quand même, il propose l'habitude comme remède donc.
Il dit notamment, l'habitude, c'est bien utile lorsque finalement on est accablé par la fortune, c'est-à-dire que la fortune qui était une personnification du hasard, nous envoie mot sur mot, bah finalement la nature nous a bien aidé en nous fournissant l'habitude, c'est-à-dire qu'on arrive à s'habituer finalement à supporter les mots qu'on nous envoie par l'habitude. Et si, c'est vrai que si on n'avait pas l'habitude, on aurait du mal à supporter cela. Alors, c'est un thème qui est assez classique dans l'Antiquité. On le trouve aussi chez un poète de l'époque augustine qui est Ovide, qui dit effectivement de même que les chevaux auxquels on impose un joug, au début se commencent à se débattre et refusent le joug, finalement au bout d'un moment ils s'habituent. Bah, l'homme c'est pareil, finalement il s'habitue progressivement à supporter le joug qui l'accable et ça lui permet de survivre. Et ça effectivement Sénèque le reprend, cette habitude c'est quelque chose qui finalement est extrêmement important. Extrêmement importante dans la vie parce qu'elle nous permet de supporter notre imperfection.
Et c'est aussi peut-être à partir de cette prise en compte de l'habitude qu'on peut faire un reproche à Sénèque qui d'ailleurs a dû lui être fait, y compris dans le domaine politique, dire qu'on tant mieux parce qu'on s'habitue à notre condition, c'est aussi ouvrir la voie à un conservatisme absolu, c'est-à-dire surtout ne changeons rien puisqu'on peut s'habituer au mot MAUX humain. Alors s'il prône la même chose en politique, c'est là où effectivement on a pu lui reprocher cette attitude-là.
Alors c'est le paradoxe, tout en disant l'habitude nous permet de tolérer, de supporter nos maux, Sénèque en même temps, constamment, et dans la tranquillité de l'âme, comme dans ses autres traités, va faire en sorte, par son enseignement, par ses préceptes, d'essayer de nous extirper de cette situation malheureuse, puisque le but, quand même, de ses œuvres et de son activité, c'est d'essayer de sortir son destinataire de cet état d'intranquillité, de non-sagesse, pour le tirer le plus possible vers la sagesse. Donc on a cette ambivalence de Sénèque qui décrit à la fois l'importance de l'habitude pour supporter notre imperfection et qui en même temps va donner à ses interlocuteurs, à ses destinataires tous les instruments, tous les médicaments nécessaires pour sortir de cet état d'imperfection et donc pour finalement sortir d'un état dans lequel l'habitude est nécessaire d'une certaine manière.
Et c'est la dimension politique de cette position est quand même très importante puisque Sénèque était le précepteur de Néron, ce qui va se retourner contre lui puisqu'il va être condamné à l'exil. Et puis Agrippine va le rappeler, puis finalement Néron, qui pense être en proie à un complot organisé autour de lui auquel Sénèque aurait pris part, va ordonner à Sénèque de mettre fin à ses jours. Et on a ici, alors bon, on arrive au terme de notre discussion, mais avec ce choix qui n'en est pas vraiment un, mais quand même cette injonction à se donner la mort et la façon dont Sénèque lui-même l'a vécu, d'après les récits qu'on fait Tacite et d'autres personnes, montre qu'il y a ici une forme à la fois de résignation, peut-être d'habitude à la fortune, à ce qui ne dépend pas de nous, qui peut conduire à une forme de, peut-être de sérénité, en tout cas d'acceptation. Si politiquement ça peut poser un problème, en tout cas à échelle individuelle, c'est peut-être une solution viable.
Alors, en effet, alors la vie de Sénèque est intéressante de ce point de vue, puisqu'effectivement, Sénèque a connu, donc a été précepteur de Néron, a été appelé par Agrippine en 49 pour être précepteur de Néron. Lorsque Néron est devenu empereur, Sénèque est devenu son plus proche conseiller. Et ce qui tombait bien, c'est qu'il s'entendait très bien avec le préfet du prétoire, le chef de la garde prétorienne, c'est-à-dire de la garde rapprochée de Néron, qui s'appelait Burrus et qui était également stoïcien. Et donc, ça a permis à Sénèque de dicter un peu dans l'ombre la politique impériale. Et il est d'ailleurs reconnu par les historiens que les premières années du règne de Néron ont été assez sages. Mais les choses se sont progressivement dégradées. Néron a été de plus en plus sous l'influence d'hommes qui l'éloignaient de Sénèque et des stoïciens et du Sénat. Et en 59, Néron a fait assassiner sa propre mère Agrippine. Et en 62, Burrus meurt et Sénèque, lui, entre en disgrâce, donc se retire de la vie politique. Donc effectivement, Sénèque, lui, a dû s'adapter à cette évolution de situation. Et alors, sa mort a été imposée par Néron. Effectivement, c'est Tacite qui raconte beaucoup la mort de Sénèque. Sénèque a-t-il vraiment choisi sa mort? C'est difficile à dire, puisqu'il a été obligé de se suicider. Mais ce qui est sûr, c'est que cette sérénité qu'il avait pu peut-être trouver dans l'action politique, il la trouve au moment de sa mort dans un suicide qui est décrit comme un suicide qui se rapproche du suicide socratique, en fait. Hein, voilà, suicide de sage.
On n'oublie rien, de rien on oublie, rien du tout on oublie, rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni ces départs, ni ces navires, ni ces voyages qui nous chavirent de paysage en paysage et de visages en visages. Ni tous ces ports, ni tous ces bars, ni tous ces attrape-cafards où l'on attend le matin gris au cinéma de son whisky. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien, de rien on oublie, rien du tout on oublie, rien de rien, on s'habitue, c'est tout.
On s'habitue, c'est tout. Merci beaucoup, Juliette Rose, d'être venue nous parler de Sénèque aujourd'hui.
Merci à vous.
Je renvoie les auditeurs à deux ouvrages de votre part, La tranquillité de l'âme, cette nouvelle édition, puisque c'était le sujet du jour qu'on trouve aux éditions du Seuil. Et puis un second, c'est la publication de votre thèse, Voir la philosophie, les représentations de la philosophie à Rome, disponible aux éditions Libelles-Lettres. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h47, encore 2 minutes, papillon. C'est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie, qui vient nous parler d'un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Alors au programme aujourd'hui.
Au programme aujourd'hui, un Que sais-je, c'est la troisième réédition du Que sais-je consacré à l'esthétique par Carole Talon-Hugon aux éditions PUF. Alors, le livre de philosophie dont je vous parle aujourd'hui n'est ni un essai ni un commentaire, c'est un que sais-je. Entièrement consacré à l'esthétique, cette discipline à la croisée des genres entre théorie du beau, science du sentir, philosophie de l'art et critique du goût. Alors, l'idée de cet ouvrage est assez simple, donner une vue d'ensemble de ce qu'est l'esthétique à travers les époques et en interroger la spécificité comme discipline philosophique, discipline qui touche à la fois les œuvres, les artistes et les spectateurs. Mais en fait, j'aimerais surtout profiter de cette chronique pour faire une déclaration, une petite déclaration à la collection Allez-y. Que sais-je. C'est une collection bien connue de tous et surtout pour sa démarche didactique. Mais plus que pédagogique ou utile, les Que sais-je sont aussi passionnants. Certains sont même beaux et c'est le cas de celui que j'ai entre les mains. De la naissance de l'esthétique au XVIIe siècle jusqu'au défi posé à l'esthétique au XXe siècle par l'art contemporain, c'est l'occasion de lire tous les textes cruciaux et vraiment incroyables sur cette discipline sans cesse en devenir. Alors il y a évidemment Hume, Kant ou Hegel, mais il y a aussi le philosophe allemand Baumgarten, celui qui a inventé le terme esthétique en 1635 et qui a pu dire, comme on peut le lire dans cet ouvrage, à l'objection selon laquelle les sensations, les représentations imaginaires, les fables et les troubles passionnels ne sont pas dignes de philosophe, je réponds que le philosophe est homme parmi les hommes et qu'il n'est pas bon qu'il considère une partie si importante de la connaissance humaine comme lui étant étrangère. Rien de plus beau donc que de lire et découvrir grâce à un que sais-je comment la philosophie n'est pas que l'exercice de la raison mais aussi une discipline du sensible.
C'était votre déclaration, Géraldine.
Ma déclaration d'amour à que sais-je. Donc c'est l'esthétique de Carole Talon-Hugon aux éditions PUF.
Merci Géraldine. Les nouveaux chemins touchent à leur fin. Pas d'inquiétude, on se retrouve demain évidemment pour la suite et fin de cette semaine consacrée à Sénèque. Demain, je recevrai Emmanuel Naya pour parler de la brièveté de la vie. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales, concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.